Bonjour à toutes et à tous. Sébastien Lecornu, en Corse, le ministre des Armées, est à la base aérienne de Solenzara depuis ce matin. Par ailleurs, le Charles de Gaulle, porte-avions, est en mission en Méditerranée pour l'OTAN. On en parlera dans Marie Ladine. La lutte contre le crime organisé et les annonces hier du garde des Sceaux, réaction des magistrats et des collectifs anti-mafia. Au Jomer, votre rendez-vous du lundi sur RCFM ce matin, Xavier Paul et maire de Corté étaient en direct, l'invité de la rédaction et de votre forum. Les élections européennes, c'est le 9 juin, dans un peu plus d'un mois, et nous verrons qu'il y a du boulot pour intéresser les électeurs au scrutin et surtout les jeunes électeurs. Les croisiéristes, une étude de la CCI de Corse nous en dit un petit peu plus sur cette population touristique. Et puis comme chaque lundi, le MacFoot sur RCFM, c'est avec vous Jean-Philippe Thibodeau.
Et oui, un MacFoot, Alexandre, consacré au débrief de la 35e journée de Ligue 2 avec un Sporting et une équipe de la CA qui avait visiblement plus les têtes et les jambes déjà aux plages de sable fin plutôt qu'au terrain de football, du moins pour les 45 premières minutes de cette 35e journée. Des Ajacciens, mais surtout des Bastiais en mode Dr Jekyll et Mr Hyde, avec deux visages totalement différents. Alors, à quoi peut-on s'attendre pour cette fin de saison de la part du Sporting de la CA? Ce sera donc le débat de ce MacFoot.
Merci Jean-Philippe, et rendez-vous donc à midi et demi. Vous avez le programme. Bienvenue dans le 12-13 d'RCFM. Le ministre des Armées en Corse aujourd'hui, donc Sébastien Lecornu, sera cet après-midi en Balagne, au deuxième REP de Calvi, notamment pour un entretien avec Guido Crocetto, ministre de la Défense italien, avec qui il doit signer un accord de coopération, notamment en matière d'armement terrestre. Le ministre des Armées, qui était ce matin en visite sur la base aérienne de Solenzara, où nous retrouvons en direct Christophe Duigelli.
Bonjour Alexandre. Oui, Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, est arrivé en milieu de matinée sur la base aérienne de Solenzara. Il était accompagné du chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace. Le ministre a visité les installations de la base aérienne. Il a pu voir les Pumas, les fameux hélicoptères de l'armée de l'air qui sont présents sur la base toute l'année. Il a également passé en revue les troupes et remis des médailles militaires. Mais son déplacement en Corse, c'est surtout l'annonce de nouveaux crédits pour les armées sur l'île. C'est ce qu'il a annoncé dans son discours qu'il a tenu depuis la piste. 344 millions d'euros au total pour la Corse, 234 millions d'euros uniquement pour la base de Solenzara, le reste sera pour le deuxième REP. Ici, à Solenzara, ces fonds vont permettre de rénover les pistes et évidemment acheter de nouveaux équipements, rénovation des Pumas, mais aussi le renforcement avec de nouveaux hélicoptères Caracal, amélioration également des conditions de travail et de vie pour les militaires et les aviateurs. Des annonces, Alexandre, qui interviennent dans un contexte de menaces grandissantes et dans une politique de réarmement dans lequel est engagée la France, pour lesquelles Sébastien Lecornu a rappelé à l'importance de la base de Solenzara à son rôle déterminant, la qualifiant de point d'envol pour les différentes missions. Il est revenu sur les récentes opérations menées à partir d'ici en Libye ou encore au Niger, base qui sert également de zone d'entraînement dans le cadre de coopération de l'OTAN mais aussi interméditerranéenne. Il faut savoir que c'est une base qui permet surtout, d'où son importance, de se projeter en Méditerranée, au Moyen-Orient mais également en Asie. La visite du ministre Sébastien Lecornu va se poursuivre à Calvi, au deuxième REP, où, comme vous l'avez dit Alexandre, il rencontrera son homologue italien, où il sera question de partenariat stratégique sur la défense.
Christophe Duigelli en direct depuis la base aérienne de Solenzara. Merci Christophe. Et puis, hasard du calendrier, le Charles de Gaulle est en Méditerranée. Le porte-avions français est en mission, une mission nommée Aquila sous commandement de l'OTAN. L'ex-vice-amiral d'escadre Pascal Hausseur décrypte ses mouvements dans Marie Ladine, au micro de Jérôme Soussigny.
Le groupe aéronaval est bien sûr en tête de celui-ci. Le porte-avions Charles de Gaulle est en Méditerranée en ce moment et sous le commandement de l'OTAN. Bonjour Pascal Hausseur.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général de la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques. Qu'est-ce que cela signifie? C'est la première fois en 75 ans que cela se produit.
C'est surtout un signal politique. Sur le plan pratique, concret, ça change rien en fait. Le groupe aéronaval, il a déjà été en exercice sous les ordres de l'OTAN. Lui-même, la marine française, a un état-major qui est labellisé OTAN, qui de temps en temps prend sous son commandement des bateaux de toute nationalité de l'OTAN. Sur le plan opérationnel, les procédures de commandement, elles sont parfaitement rodées. On l'a fait en temps d'exercice. Ça permet d'avoir ce qu'on appelle une interopérabilité, c'est-à-dire la capacité à travailler ensemble avec des Italiens, des Américains, des Allemands, des Anglais et des Espagnols. Concrètement, ça veut dire que vous êtes dans le même groupe, que vous parlez le même langage, que vous avez une chaîne de commandement qui vous permet de travailler facilement. Et si à un moment vous avez l'impression que l'ordre qu'on vous donne n'est pas le bon, en tout cas que vous ne souhaitez pas l'exécuter, et ben vous retirez immédiatement votre bateau, vos moyens de la force. Donc il y a aucune obligation en quelque sorte d'action. En revanche, c'est un signal politique. C'est vrai qu'il y a un côté symbolique. Pendant des années, la France a dit « je veux bien mettre mes bateaux en exercice sous le commandement opérationnel de l'OTAN, ou en l'occurrence ça s'appelle le contrôle opérationnel, mais bon, c'est de la nuance. On n'avait jamais mis le porte-avions sous ce commandement. Donc là, c'est un affichage, et je pense que cet affichage, il est surtout destiné aux Russes, pour montrer que la solidarité entre les alliés est très forte à un moment où les tensions croissent considérablement.
Merci Pascal Hausser, on se retrouve demain pour essayer de comprendre ce qui se passe, ce qui se joue dans notre Méditerranée en ce moment.
Au revoir.
Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, a annoncé hier dans le journal La Tribune dimanche plusieurs mesures pour renforcer la lutte contre la criminalité organisée. Création notamment d'un parquet national spécialisé, d'un véritable statut de repenti, d'une cour d'assises spéciale avec des magistrats professionnels. Des annonces qui interviennent peu de temps après le vote de la proposition de loi sur la confiscation des avoirs criminels qui passera justement demain en commission mixte paritaire. La lutte contre la criminalité organisée a le vent en poupe et en Corse, les collectifs anti-mafia s'en réjouissent. Léa Maria Mousso.
Le ministre de la Justice parle d'un plan choc et sa mesure phare, c'est celle du statut de repenti. Une très bonne nouvelle pour Jérôme Mondologne, l'un des porte-parole du collectif Massimo Susini.
Le statut de repenti, c'est pour la criminalité organisée une des mesures qu'elle craint le plus.
Car le statut de repenti existait déjà, mais était très peu efficace. Un projet de loi auquel a d'ailleurs été associé le député Marco Angeli prévoit de l'élargir aux criminels qui ont commis des assassinats. Un emprunt à la législation anti-mafia italienne, inconcevable il y a encore quelques années.
Il y a 2 ou 3 ans, toutes ces mesures étaient non seulement impensables, mais on nous expliquait que l'arsenal judiciaire français était largement suffisant pour combattre la criminalité organisée.
Et signe d'un changement positif pour Josette Dalla Santucci, cofondatrice du collectif Mafiano à Huitaillé.
Ça se rapproche de la loi italienne, bien que le mot mafia ne soit pas prononcé, mais cela ne nous inquiète pas. La société commence à évoluer. On s'aperçoit que de plus en plus, les gens, dans les 2 dernières années, ont compris de quoi nous parlons.
Une évolution encourageante à l'heure où la criminalité organisée est bel et bien devenue un problème européen.
Et dans la lutte contre ce crime organisé, une aide peut être précieuse, une aide juridique, un outil juridique, mais qui est peu utilisé, c'est le recours au repenti des personnes suspectées par la justice, mais qui acceptent de collaborer. Le ministre parle d'un véritable statut, parce qu'aujourd'hui, du côté des magistrats, en tout cas, le constat est partagé, le statut de repenti actuel n'est pas attractif. Pierre de Cossette.
Aujourd'hui, la police française protège 42 personnes dans des programmes de repenti. Une goutte d'eau dans une criminalité organisée en pleine expansion. Il faut dire par exemple qu'on ne peut pas être repenti si on a du sang sur les mains, déplore Bruno Sturlez. Il y a des trous dans la raquette, dit ce magistrat qui a présidé pendant 6 ans la commission des repentis. Il manque en particulier ce qu'il appelle une carotte pénale pour inciter des suspects à devenir des collaborateurs de justice. Cette carotte, c'est la question de la réduction, voire de l'exemption de peine.
Une candidature de repenti, c'est au début d'une enquête, bien avant la phase de jugement. On fait rentrer un individu en lui promettant qu'il aura une mansuétude, une bienveillance pénale. Mais ceux qui font cette promesse, ce n'est pas ceux qui jugeront l'individu 5 ans ou 10 ans plus tard devant la cour d'assises ou devant le tribunal correctionnel. Donc on fait une promesse qui est incertaine. Donc on a besoin d'avoir un barème plus convaincant de réduction de peine et surtout un barème qui représente une certitude, un engagement certain pour le candidat.
Il y a 2 mois au Sénat, l'actuel président de la commission des repentis avait par exemple évoqué l'idée d'une sorte de plaidé coupable qui offre au futur repenti plus de garanties sur la durée de sa peine et lui évite le procès avec les autres accusés qu'il aura possiblement dénoncés.
12h09 sur RCFM, le maire de Corté, Xavier Paul, invité de Auge-au-Maire, et ce lundi, avec lui, nous évoquons la ville universitaire, la ville touristique, ses atouts, sa montagne, ses défis, l'avenir de la vallée de la Restoniga, on sait, dévastée cet hiver par la tempête, mais aussi la cohabitation entre les diverses populations, étudiants, touristes, cortenais. Tout d'abord, tour d'horizon, justement, de la cité avec Hélène Battini.
Corté, capitale de la Corse indépendante, centrale dans l'histoire, mais aussi géographiquement, au cœur du centre de l'île et de sa commune. Communauté de communes. La cité Paoline accueille l'Université de Corse depuis plus de 40 ans, atout majeur pour le développement de cette sous-préfecture. Quelques 5000 étudiants y sont présents chaque année. Près de la moitié d'entre eux, recensés sur place, portent la population à 7654 habitants en 2021. Une commune de près de 150 km² qui a connu un développement des constructions important ces 10 dernières années, que la municipalité actuelle, coalition droite-gauche, emmenée par Xavier Paul, maire d'hiver droite, respectant l'histoire libérale, souhaite souhaite maîtriser à travers son PLU. Objectif, la cohabitation entre Courtenay, étudiants, plus simple que la Légion, et touristes. Longtemps un avantage pour l'activité économique de la ville, relativement pauvre. Ces deux dernières populations se chevauchent à présent au manque à l'appel. Fidéliser étudiants et professeurs aussi entre arrière et avant saison estivale, particulièrement scrutée cette année après les intempéries qui ont dévasté le joyau de la micro-région, la vallée de la Restonigue, qui donnera une place au second rôle, Tavignan, Musée de la Corse et villages environnants, pour charmer, faute d'ours, au moins les touristes.
Le décor est posé et au centre du tableau, Xavier Poli, le maire de Corté, qui répondait en direct dans la matinale d'RCFM aux questions de Caroline Saglione.
Bonjour Xavier Poli.
Bonjour Caroline Saglione, bonne journée à tous.
2023 a été une année plutôt compliquée pour Corté, surtout la fin, hein, avec bien sûr des dégâts considérables dans la vallée de la Restonigue après les tempêtes de novembre. En dépit des efforts qui ont été faits, il y a toujours ce problème de mobilité dans la vallée. La saison va démarrer. Alors est-ce qu'on a une idée au vu des réservations de quoi elle sera faite ou c'est toujours l'inconnu ?
Alors pour l'instant, les retours que j'ai auprès des socioprofessionnels que j'ai rencontré pas plus tard qu'hier d'ailleurs, tous les retours indiquent que la fréquentation ne devrait pas subir en première intention les impacts catastrophiques qu'ont occasionné ces tempêtes dans la vallée de la Restonigue. Pour une raison assez simple, je pense que les touristes ne sont pas au courant de ce qui s'est passé et ne sont pas au courant pour l'instant des incidences. Donc il va falloir regarder ça de près sur le moyen long terme et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité qu'on mette un observatoire des incidences économiques de ces catastrophes qui a été confié à l'Université de Corse.
On a déjà quelques résultats de cet observatoire ou rien pour le moment, il travaille ?
Non, pour l'instant on est en train de mettre en place cet outil, ils vont commencer à travailler et on va avoir bien évidemment des retours divers et variés qui vont nous permettre d'apprécier d'une part la fréquentation mais pas que, parce qu'il peut y avoir une fréquentation similaire à celle de l'an dernier. Par contre, quel va être l'impact économique, le durée de résidence des touristes sur Corté et ce qu'ils vont dépenser en termes clairs, tout ça, nous ferons le point à la fin de la saison pour avoir une idée précise de l'état des lieux.
Alors, on ne peut plus monter en voiture jusqu'au parking qui monte au Grotel et l'accès au lac va être plus long. Qu'est-ce qui a été fait quand même pour capter les randonneurs ?
Alors, ça a été... Le premier objectif que nous avons fixé en concertation avec le préfet de la Haute-Corse et le président du conseil exécutif de Corse, c'était d'organiser une saison estivale dans la vallée pour permettre justement à ce que les impacts soient le moins négatifs possible. Il y a eu deux axes. D'abord, repenser toute la mobilité, puisqu'à partir du pont des Dragons, la route est effondrée, le pont aussi. Donc il a fallu repenser toute cette mobilité dont le socle va être une navette qui est mise en place par la collectivité de Corse, dont je salue le travail et la réactivité, parce que monter toutes les conditions nécessaires à la mise en place de cette navette en quelques mois, je pense que c'est un exploit. Il y aura sûrement des ajustements à faire, et nous sommes en train d'y travailler avec les services compétents de la collectivité, pour permettre que cette navette démarre comme prévu le 2 mai. Mobilité et ensuite attractivité.
Oui,
du point de vue de l'attractivité, évidemment, il a fallu là aussi pas repenser, mais nous sommes attachés, en particulier la commune, en partenariat avec l'Office de l'environnement de la Corse, nous sommes attachés à réhabiliter une trentaine de kilomètres de sentiers qui permet aujourd'hui d'avoir accès à un peu plus de 8 randonnées qui sont échelonnées entre la basse vallée, et c'était important, la moyenne vallée et la haute vallée. Tout ça a donné lieu à un gros travail qui est en cours d'achèvement. Les premiers retours que j'en ai, pour m'être moi-même rendu sur les lieux, c'est que le travail a été très bien fait et que désormais ces sentiers offrent une attractivité diversifiée pour la vallée et elle est complétée aussi par les sites d'escalade dont nous disposions avant et que nous, là aussi, nous avons réhabilité avec le soutien de la Fédération française de la montagne et de l'escalade.
Xavier Poli, autre moment, autre projet important, c'est ce nouveau PLU, plan local d'urbanisme de Corté, qui a été voté, un plan pour les 15 prochaines années. Vous parlez d'un PLU plus vert, plus résilient. Qu'entendez-vous par là ?
Alors, il est plus vert parce que il va y avoir une prédominance des espaces verts, pas seulement sur divers programmes que nous sommes en train de mettre en place, mais sur l'ensemble de la cité. C'est pas simplement pour faire joli ou pour planter des arbres, c'est aussi, vous l'avez dit, pour que notre commune et la ville d'université soient plus résilientes face aux événements climatiques, tels que ceux que vous avez cités, mais pas que. Je parle aussi du réchauffement. Et ce plan local d'urbanisme, cette révision, correspond pour nous aussi à un objet politique. Nous avons d'un côté un plan de transformation durable, à la fois de la ville et de la ville université, que nous avons mis en œuvre depuis 2020, en étroite concertation préalable avec l'État, la collectivité de Corse et l'université. Ce plan qui trace l'avenir de Corté pour les 15 ans qui viennent est en cours d'exécution. Et j'ai tenu à ce que le PLU soit en totale cohérence avec ce programme.
Xavier
Parce
Paul,
que sinon, nous n'aurions pas pu le mettre en œuvre.
Vous, dans ce PLU, les zones à urbaniser sont devenues en majorité des zones urbanisées, ce qui veut dire plus de logements, puisque vous avez un objectif sur 10 ans.
Exactement. Alors, on a fait un état des besoins, on a ajusté ces besoins par rapport à ce qui avait déjà été fait, par rapport aux besoins étudiants, mais pas que, par rapport aussi aux besoins des Cortenais. Et l'objectif de ce PLU est de permettre aussi à ce que l'accessibilité à ces logements soit favorisée aussi bien pour les étudiants que pour les Cortenais.
Oui, il y a un plan également, hein, on parle de 815 logements principaux, mais 400 aussi pour les étudiants, parce que on a créé donc un office du côté de Corté, justement parce qu'il y a un problème de logement étudiant qui est assez important.
Il y a un problème de logement étudiant qui est prégnant depuis plusieurs années, sauf que au cours des 4-5 dernières années, nous avons pu constater que la saisonnalité à la fois des étudiants et à la fois du public touristique est complètement décalée par rapport à avant. Pour parler clairement,
ils finissent plus tôt.
La saison étudiante est raccourcie et donc il y a un gap entre la saison étudiante et la saison touristique. Ce qui fait que les logements avant, qui étaient destinés aux étudiants, je vous prends un exemple simple, vous aviez des familles qui souvent louaient d'un bout de l'année à l'autre, en faisant une croix sur l'été, puisque les étudiants n'étaient pas présents, mais ils assumaient cette charge pour être sûrs de retrouver un logement. Là, quand vous êtes plus sur un délai de 3 mois, mais un délai qui s'étale parfois de 5 à 6 mois, vous comprenez bien que la réflexion n'est plus la même, y compris pour les investisseurs.
Il va donc falloir repenser tout ça.
Et puis, le maire de Corté, voilà, après l'exercice de l'interview, donc en direct ce matin, s'est aussi prêté au jeu du forum, au jeu de la proximité sur RCFM. Il a répondu aux questions des auditeurs et notamment à la question de Fatia, une présidente d'association.
Fatia, sans plus tarder, pour évoquer les moyens de transport en commun à Corté. Bonjour Fatia.
Oui, bonjour. Bonjour monsieur le maire. Dans le cadre, je suis présidente d'une association, dans le cadre de... Les 80 ans de la libération de la Corse, on était amené à emmener des jeunes avec leurs parents pour visiter le musée de Corté. Il n'y a pas de moyen de transport, il n'y a pas de transport en commun. Alors voilà, je vous ai entendu ce matin, c'est sympa ce que vous faites, les navettes et tout.
Le train ?
Pour les touristes. Non, on est monté au train, mais pour arriver jusqu'en haut, parce que c'est quand même, il y a...
Ah, ça monte, hein.
Ça monte, il y a une belle... Bon, moi, ça ne me dérange pas, je suis grande sportive, mais bon, après, on avait des personnes qui ne pouvaient pas trop marcher, parce que c'était un public mélangé, mais quand même, pour aller d'un point à l'autre, quand on est à Corté même, tout le monde n'est pas sportif.
Il n'y a pas de navette, Xavier Paul ? C'est la question que Fatia vous pose, en fait. Pas de navette entre la gare et le centre-ville.
Alors, il faut savoir d'abord que la mobilité, notamment via des navettes, des bus, ce n'est pas de la compétence de la commune, ce n'est pas de la compétence de l'interco, c'est une compétence de la collectivité de Corse. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, c'est eux qui ont mis en place, comme je le disais précédemment, en un temps record, un système de navettes pour la vallée. Néanmoins, nous sommes parfaitement conscients que cette problématique existe, et nous en sommes tellement conscients que ça fait partie d'un pan de mobilité qui est compris dans le projet dont je parlais tout à l'heure, notamment au travers de l'ORT. Donc nous sommes actuellement en discussion très avancée avec la collectivité de Corse pour instaurer des lignes de bus à Corté et des lignes de bus aussi, ou des transports en commun, qui pourront rayonner à l'échelle de l'intercommunalité. Nous avons eu déjà beaucoup de réunions de travail à ce sujet. C'est en cours. Son partenaire, bien évidemment, de la mise en place de cette mobilité, la collectivité de Corse, la commune, l'intercommunalité, mais aussi et surtout l'université. Tout ça va se traduire aussi par des aménagements, puisqu'on a prévu, notamment avec l'université, la création de parkings dits multimodaux, qui vont se situer à l'emplacement du futur transfert du site de Tatone sur Corté, c'est-à-dire côté Ajaccio, en venant de Corté. Donc il y a bien un plan qui est prévu, qui fait appel au financement de différents partenaires en fonction de leurs compétences.
La CCI de Corse s'est penchée dans une étude sur le marché des croisières. Au total, ce type de tourisme a généré 27 millions d'euros, 6 millions d'euros de taxes, 7 millions d'euros de valeur ajoutée, quelques 240 emplois. En 2023, la Corse a accueilli 450 000 croisiéristes, allemands, anglais, américains. Pour autant, la Corse est en situation de sous-tourisme. C'est ce que déclare Jean-Pierre Nadir, spécialiste de tourisme durable, parrain du deuxième salon Sens Corsica, qui s'est tenu du 25 au 27 avril au Palais des Congrès.
Vous êtes l'un des avocats du tourisme durable, en quoi ça consiste exactement?
Oui, c'est vrai, vous avez raison, le terme d'avocat est assez bon, c'est-à-dire que j'essaye donc d'évangéliser les consciences partout où je peux pour promouvoir donc le tourisme responsable et durable. Et bien écoutez, la définition du tourisme responsable, elle est très claire, c'est réconcilier les enjeux de la planète, des populations locales et des touristes. Autrement dit, c'est faire en sorte que ces trois leviers qui sont parfois effectivement donc opposés puissent effectivement additionner les vertus des uns et des autres.
Donc sur votre plateforme Fairmove, vous recensez 4000 hôtels qui ont des bonnes pratiques. Combien en Corse?
On a une trentaine d'hôtels donc en Corse, et les bonnes pratiques évidemment donc tendent à réduire la consommation d'eau, réduire la consommation d'énergie, donc évidemment mettre en place des politiques zéro plastique, des politiques zéro déchets, faire en sorte qu'on collecte les déchets et qu'on puisse bien les retraiter, mais aussi avoir une politique sociale, car n'oublions pas que le tourisme est aussi le premier secteur sans doute d'inclusion donc mondiale. C'est un secteur où on peut rentrer donc apprenti et finir donc patron de l'hôtel. Le tourisme offre aujourd'hui donc beaucoup de vertus dans un lien social donc indispensable si on veut créer donc non pas les conditions d'un monde seulement bas carbone, mais les conditions d'un monde bas carbone et d'un monde apaisé. Baisser l'impact carbone, monter l'impact social. Il y a 4 ans, une étude montrait que 17% seulement des produits du petit déjeuner dans l'hôtellerie Corse provenaient de Corse. Donc 83% venaient du continent ou d'ailleurs. Vous savez qu'en moyenne, un produit donc alimentaire fait 3000 km avant d'arriver dans votre assiette. Eh bien, encourageons donc l'hôtellerie Corse à investir dans les producteurs donc locaux, à remettre à l'honneur donc évidemment la gastronomie corse, car lorsqu'on voyage, c'est pour aller voir ailleurs ce qui se passe, mais c'est aussi pour rencontrer le goût de l'ailleurs, parce que l'ailleurs a des couleurs, a des saveurs, a des odeurs, et la Corse, de ce point de vue, donc évidemment, a beaucoup de choses à faire valoir.
Qu'est-ce qu'elle peut faire valoir d'autre à la Corse?
Tourisme est un peu en berne en Corse depuis 2 ans, donc les taux de remplissage donc sont moins importants dans l'hôtellerie. Donc pourquoi? Parce que un, les transports sont chers, parce qu'ils sont pas assez nombreux sans doute, et puis deuxièmement, donc l'hôtellerie n'a pas réussi donc peut-être à faire assez mettre en avant sa valeur ajoutée. La Corse est un peu une belle endormie qui parfois a confondu donc service et servitude, qui parfois donc a évoqué le fait que le tourisme était un mal nécessaire, alors que moi je pense que c'est un bien pour l'humanité. C'est pas aux visiteurs de féliciter donc celui qui l'accueille, c'est celui qui l'accueille qui devrait être fier d'avoir donc des visiteurs. Et je pense que c'est le bon moment aujourd'hui donc en Corse, mais dans d'autres destinations aussi, pour réinventer aussi la relation client. Au fond donc un client c'est quoi? C'est un ami qu'on n'avait pas encore rencontré, et il faut rentrer dans cette relation.
Le touriste est un ami qu'on n'a pas rencontré, mais le surtourisme, lui, ça fait beaucoup trop d'amis.
Tous les cas, je dirais que pour l'instant, en Corse, on est plutôt en sous-tourisme qu'en surtourisme. Donc, à part les bateaux de croisière, donc qui est sans doute aussi donc un sujet à considérer, donc et un peu à réguler. Faut rappeler que le surtourisme, c'est quand même donc un tourisme démocratique qui a réussi. C'est la preuve qu'on a permis à plein de gens de voyager et d'aller voir effectivement donc ailleurs ce qui se passe. Aujourd'hui, donc la Corse a la chance de pouvoir développer et proposer autre chose que ce tourisme effectivement donc de masse, donc un tourisme de qualité, un tourisme donc d'authenticité. La Corse peut être une terre d'excellence et d'intelligence. Ce qui est important finalement, c'est de dire, est-ce que la Corse pourrait pas être le LVMH, le Louis Vuitton donc du tourisme français? Pourquoi aller vendre du saucisson à 10 euros quand le kilo, quand les Espagnols vendent du pata negra à 1500. Donc on doit être capable de, si on est fier de ses produits, si on pense qu'effectivement donc on est une terre d'excellence, alors on doit être capable de défendre ses prix et d'avoir effectivement donc une clientèle qui est prête à payer le prix en question. Donc aujourd'hui, le surtourisme est un autre problème. Pour l'instant, la Corse, c'est un problème de sous-tourisme. Comment on fait pour faire venir les gens et comment on fait pour arriver à vendre au juste prix des prestations qui doivent remonter en qualité?
Jean-Pierre Nadir, spécialiste du tourisme durable, interrogé par Paul Ortoli.